France Info.
Nous avons beaucoup de calme, un ciel assez bien dégagé sur le quart sud-est pour ce matin. Et sinon, on a pas mal de brouillard. D'ailleurs, la Tour Eiffel a la tête dans les nuages en ce moment.
Merci beaucoup Christine Peña. Merci à tous d'être à l'écoute de France Info. Il est 5h. Et à la une ce matin, Bad Bunny qui fait le show à la mi-temps du Super Bowl. Le chanteur américain célèbre l'Amérique latine devant des millions de téléspectateurs. Les Marseillais sonnés après une très mauvaise soirée, défaite 5-0 face au PSG hier soir en Ligue 1. Des coups de matraque par dizaines, 9 CRS sont jugés à partir d'aujourd'hui pour avoir frappé des gilets jaunes à Paris il y a 7 ans. Au Portugal, c'est un socialiste qui est élu président face à l'extrême droite. Et puis de la neige en abondance dans les Pyrénées, pour les vacances d'hiver. À la fin, ce sont les Seattle Seahawks qui triomphent contre les New England Patriots. Victoire 29-13 lors du Super Bowl, la finale du championnat de foot américain. Mais le match n'était pas forcément ce qui était le plus attendu pour des milliers de téléspectateurs. Le Super Bowl, c'est aussi un grand spectacle avec des concerts. Loïc Piala, c'est Bad Bunny, la superstar américaine originaire de Porto Rico, qui a assuré le spectacle à la mi-temps. Lors de sa dernière apparition au Grammy, il avait publiquement critiqué la politique de Donald Trump.
Même ceux qui n'aiment ou ne comprennent pas la musique de Bad Bunny devront bien admettre que son concert a été spectaculaire. Pendant 13 minutes, il a invité les 70 000 spectateurs du stade et les 100 millions de téléspectateurs américains sur son île de Porto Rico, dansant au milieu des champs de canne à sucre, dans un petit village ou sur des poteaux électriques, référence à l'ouragan Maria qui avait ravagé l'île en 2017. Accompagné de dizaines de chanteurs et musiciens, Bad Bunny a aussi convié l'acteur chilien Pedro Pascal, la chanteuse colombienne Karol G, son compatriote Ricky Martin ou Lady Gaga, reprenant son tube Die With A Smile dans une version salsa. Il a quitté le stade suivi d'une dizaine de drapeaux du Canada au Chili, un message sur le ballon de football américain qu'il tenait dans sa main. Tous ensemble, nous sommes l'Amérique. Un autre s'affichait sur l'écran géant du stade. Seul l'amour est plus fort que la haine. Une célébration de la culture latino autant qu'une déclaration politique.
Loïc Piala, correspondant de France Info aux États-Unis. Et après ce spectacle, Donald Trump, le président américain, a qualifié le show de Bad Bunny d'affront à la grandeur de l'Amérique. En France, ce sont les supporters de l'OM qui ont passé une très mauvaise soirée. Les Marseillais affrontaient le PSG hier soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Et c'est une vraie gifle qu'ils ont reçue. Victoire 5-0 des Parisiens. L'OM est passé au travers, comme redouté, et aurait même pu perdre plus largement. Bruno Blanza, il s'agit de la plus lourde défaite de l'OM dans un classico.
Ce n'est que la troisième fois que les Olympiens encaissent 5 buts face au PSG, en plus de 110 matchs, ce qui est énorme. Mais à chaque fois, l'OM avait su marquer. Pas hier, car les Marseillais n'en étaient pas capables. Un OM dans le match pendant une demi-heure, avant de craquer, d'exploser, de sombrer, mentalement, physiquement. Et les Marseillais s'en sortent plutôt bien avec ce 5-0. D'ailleurs, les supporters olympiens croisés sur le Vieux-Port par Yvan Plantel quittent les bars avant la fin du match, dépités.
Non mais là, on va s'en prendre 6. Hein. Vas-y, je rentre chez moi.
On dirait une équipe qu'ils ont appris à jouer dans les rues. Ils n'ont pas de cœur, c'est tout. Hein. Déçus, mais déçus à mort pour cette soirée gâchée.
Ce classico aurait pu se terminer en 8 ou 9-0, car l'OM est sauvé 4 fois par ses montants. Changer de gardien n'y aura rien fait. Léo Balerdi, le capitaine.
On ne peut pas accepter parce qu'on ne vient pas ici pour faire ça. La première mi-temps, je pense qu'on a passé à côté et ça se voit contre l'équipe comme ça.
Pour la première fois depuis près de 6 mois, les Marseillais ne sont plus sur le podium de la Ligue 1. Leur objectif du début de saison, à 13 matchs de la fin. Attention désormais que cette défaite traumatisante n'est pas plus de conséquences.
Bruno Blanza, ici Provence, pour France Info. France Info, il est 5h04. Le procès du Front National entre dans sa dernière ligne droite. Procès en appel pour l'affaire des assistants d'eurodéputés. Il se termine mercredi. Le parti est soupçonné d'avoir payé des personnes qui travaillaient en réalité pour le Front National avec des fonds européens. Marine Le Pen risque une peine d'inéligibilité, ce qui l'empêcherait de se présenter à la prochaine élection présidentielle l'année prochaine. Les images avaient été largement relayées, diffusées sur les réseaux sociaux il y a 7 ans. Celles de manifestants de gilets jaunes qui recevaient des coups de la part de CRS alors qu'ils se trouvaient dans un Burger King à Paris. C'était le 1er décembre 2018. La journée avait été marquée par des violences, des pillages, des dégradations. 9 policiers sont jugés à partir de ce matin. Les juges d'instruction ont estimé qu'ils avaient frappé sans sommation et sans raison. Jean-Philippe Deniau, certaines victimes vont témoigner du traumatisme qu'elles ont vécu ce soir-là.
Manon a toujours la gorge serrée quand elle évoque ces 3 minutes de violence auxquelles elle ne s'attendait pas.
En fait, on s'attendait à ce qu'ils rentrent et qu'ils nous disent « Bon allez, sortez, on n'en parle plus, quoi, sortez de là, c'est bon, rentrez chez vous. » Et c'est là que ça rentre dans l'irréel. On a tous les mains en l'air et aucune sommation, rien. Et là, c'est tout de suite coup de matraque et moi, je ressens que ça tape, que ça tape. Les CRS nous disaient « Levez-vous, levez-vous », mais on peut pas. Si on se lève, on va faire quoi? On va prendre pire. On s'attendait pas à autant de violence.
Les CRS qui sont intervenus avaient reçu pour information que le restaurant était rempli de casseurs et qu'il fallait vider les lieux coûte que coûte. Mais tout était calme à l'intérieur. Ils auraient dû s'en rendre compte, explique Manon.
Bien sûr que la violence gratuite était là. Ok, c'était leur fin de journée. Ok, ils étaient épuisés, mais c'était pas une raison parce qu'on a été tapés pour rien. Avec le recul, en fait, je me rends compte que ça fait 8 ans que je suis traumatisée. Il n'y a pas de vengeance à avoir. On veut juste une reconnaissance et des excuses. Et on sait bien que tous ceux qui portent l'uniforme sont pas comme ça. C'est pas ça leur travail. On veut pas dénoncer une police violente. On veut pas. Mais là, c'était de la méchanceté gratuite.
Pendant l'instruction, certains CRS ont reconnu avoir dérapé, d'autres pas. Ils risquent aujourd'hui jusqu'à 7 ans de prison.
Le reportage de Jean-Philippe Degnaud sur France Info. Une très lourde condamnation pour Jimmy Lai, le magnat de la presse, militant pro-démocratie à Hong Kong, écope d'une peine de 20 ans de prison pour collusion avec l'étranger et publication séditieuse. L'homme d'affaires et fondateur du journal pro-démocratie Apple Daily, aujourd'hui fermé, encourait la prison à vie. Une large victoire au Portugal, celle du socialiste António José Seguro à la présidentielle portugaise. Il devance largement son adversaire d'extrême droite, André Ventura. Il doit succéder début mars au conservateur Marcelo Rebelo de Sousa en poste de pendant 10 ans. Ana Navarro Pedro, vous êtes journaliste portugaise. Vous retracez le parcours du nouveau président.
C'est un politicien. Il briguait la présidence du Parti Socialiste vers 2010-2012. Il a été évincé par un certain António Costa, qui est devenu Premier ministre du Portugal en 2015 et qui est l'artisan du miracle économique portugais suite à ses années de crise et d'austérité et qui aujourd'hui est le président du Conseil européen. À ce moment-là, il a quitté la politique. Parce qu'en Portugal, on ne fait pas toujours des carrières comme en France, des carrières politiques quasiment du berceau jusqu'au cercueil. Depuis 10 ans, il s'est éloigné de la politique. C'est un chef d'entreprise. Il a créé son entreprise. Donc, il connaît le monde réel de l'économie, du travail. Et là, il s'est candidaté alors que le Parti Socialiste n'en voulait pas. Le Parti Socialiste portugais voulait comme candidat António Guterres, qui est l'actuel secrétaire général des Nations Unies. Guterres a refusé. Et donc, Seguro a pu avancer avec sa candidature tout seul avec un parti socialiste qui lui savonnait bien la planche.
La journaliste portugaise Ana Navarro Pedro, la voix du Portugal en soutien de valeurs européennes communes reste forte, salue de son côté la présidente de la Commission européenne. La présidente du comité olympique international salue en Lincevon une source d'inspiration incroyable. La skieuse américaine, l'une des meilleures de l'histoire, a très lourdement chuté hier lors des JO d'hiver. Elle a pu être opérée d'une fracture de la jambe, mais à 41 ans, cela semble être la fin de sa carrière. Ces Jeux d'hiver de Milan-Cortina ont aussi été marqués par une première médaille d'or pour la France hier en biathlon en relais mix. Eux ne font pas les JO mais profitent du large enneigement dans les montagnes des Pyrénées-Orientales. Les touristes sont nombreux en ce moment malgré des problèmes pour accéder aux stations. Des éboulements sur plusieurs routes ont rallongé les temps de trajet. Les premiers vacanciers de la zone A, c'est-à-dire Bordeaux, Lyon, Poitiers, ont passé du temps en voiture mais sont bien contents d'être arrivés, Rosalie Marc-Arthur.
Au pied des télécabines, Alain et Françoise, venus de Bordeaux, sont aux anges. Enfin la neige, après plus de 5 heures de route et un gros détour à cause de la RN20 fermée.
2 heures de plus, mais c'est pas grave.
Vous restez combien de temps en tout ?
2 semaines, carrément.
Ah oui, du coup, vous alliez pas annuler ?
Ah non.
Non, non, non. On va pas se faire arrêter par ce petit détour à faire. Oui. Parce que c'est notre petit-fils, on le met à l'école de ski dès demain matin.
Il a quel âge ?
Il a 5 ans.
Toi, t'as hâte alors de skier ?
Oui, je voulais tout de suite plonger dans la neige.
Ça valait la peine d'attendre, moi, de faire le détour.
Effectivement, le décor est splendide, sommet blanc neige qui scintille sous le soleil. Et sur les pistes, un vrai matelas de 1,50 m à 3 m de neige. Les skieurs sont ravis.
Et là, c'est des conditions idéales pour moi.
Le temps est sympa, il y a de la bonne neige, pas de verglas.
C'est le rêve.
On l'avait commandé aussi. Hein.
Oui, on avait commandé ça.
Ces dernières semaines, l'accès à la montagne était très compliqué. 2 routes fermées pour éboulement. Heureusement, la RD66 a rouvert pile à temps pour les vacances. Un vrai soulagement pour Jérôme Meunier, le directeur des Angles.
On a perdu de la fréquentation pendant
cette période-là. On est sur un week-end où chaque jour on va avoir 7000 clients. Et pendant les vacances de février fortes, on peut monter jusqu'à 8 ou 9000 clients, voire plus. Donc c'était essentiel d'avoir cette route qui soit réouverte au bon moment.
Les skieurs pourront profiter de conditions météo exceptionnelles jusqu'à début avril.
Rosalia MacArthur, ici Roussillon, pour France Info et pour le reste de la France. La météo avec Christine Peña. Si vous avez eu du soleil hier, vous nous dites ce matin que c'est terminé.
Oui, terminé. Après ce beau week-end, alors pour beaucoup quand même, pas en Méditerranée, c'est vrai, vous avez eu de la pluie. Là, la situation s'arrange un peu, mais nous repartons pour une semaine de nouveau agitée avec de la pluie, du vent, de la neige en montagne de nouveau. Le mauvais temps arrive par l'ouest. Nous allons garder ce courant océanique perturbé encore toute la semaine. Et le week-end prochain, on pourrait avoir un refroidissement et potentiellement
c'est
un peu de neige jusqu'en pleine, peut-être samedi. C'est encore à valider. Les températures ce matin, 0 à Lyon, il fait 4 à Lille comme à Nancy, 5 à Paris et 9 à Perpignan, Biarritz et Brest.
Merci Christine Peña, vous nous réservez encore plein de surprises. Merci et à tout à l'heure.
France Info, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
Jusqu'au 22 février, vivez les Jeux Olympiques d'hiver sur France Info.
Snowboard, biathlon, ski alpin,
patinage artistique, hockey sur glace.
Les temps forts, les épreuves reines,
le parcours des Français et les meilleures chances de médailles.
Ne manquez rien des JO avec nos reporters et nos consultants sur place.
Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina, c'est sur France Info.
Dans la prochaine demi-heure sur France Info, on revient sur la première médaille française aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Nous serons aussi à Annecy à un peu plus d'un mois des élections municipales. Le maire sortant ne se représente pas. Et tout de suite, on vous parle d'un secteur qui recrute à tour de bras. Il est 5h11 sur France Info.
France Info, 5h-6h, Maureen Suignard.
C'est l'un des secteurs les plus dynamiques en France. L'industrie de la défense, les entreprises voient leurs commandes s'envoler depuis le début de la guerre en Ukraine. Elles doivent donc embaucher massivement. Bonjour Laurine Benjebria.
Bonjour.
Vous nous dévoilez cette information France Info ce matin. Thales va recruter 3300 personnes en France cette année, dont plus de la moitié dans la défense, notamment des ingénieurs et des chercheurs spécialisés dans les nouvelles technologies, comme sur le site de Palaiso en région parisienne.
Dans ce centre de recherche, des centaines de chercheurs travaillent sur les technologies de demain, en quête d'innovations de pointe pouvant servir à la défense. C'est le cas de Katarzyna Kapusta, experte en cybersécurité. Depuis 4 ans, elle dirige une équipe spécialisée dans l'intelligence artificielle, une équipe qui ne cesse de s'agrandir.
Cette année, on va recruter 2 doctorants et c'est possible qu'on devra chercher des renforts.
Quand on lui demande son métier, elle répond « hacker éthique ». En gros, elle entre dans les systèmes informatiques pour tester la sécurité de l'intelligence artificielle.
On va se mettre dans la peau d'un attaquant pour attaquer évidemment le système, voir s'il est robuste aux attaques. Mais notre objectif final, c'est de proposer des contre-mesures. Aussi, on va regarder le sujet de la mauvaise utilisation de l'IA. On voit maintenant l'émergence de deepfake. Tout le monde peut générer des fausses données. Ça peut être un vrai problème, par exemple, dans le contexte de la fraude biométrique.
En tout, Thales veut recruter cette année 3300 personnes en France, dont plus de la moitié dans le domaine de la défense. Et tous les métiers sont recherchés, explique Mathieu Motillon, directeur des recrutements pour le groupe.
On recrute beaucoup dans l'ingénierie. C'est à peu près 70% de nos recrutements. Et puis, le reste sur des profils de techniciens et d'opérateurs. Par exemple, on peut avoir des personnes qui vont être spécialisées dans le câblage.
Il faut donc trouver des soudeurs, des développeurs de logiciels et des ingénieurs pour pouvoir faire face au carnet de commandes qui ne désemplissent pas depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.
On a un contexte géopolitique qui nous amène à soutenir la montée en cadence de notre activité. Par exemple, sur notre activité radar aujourd'hui, où on a plus que triplé la production. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est vraiment préparer les technologies de rupture et d'innovation.
L'an dernier déjà, Thales a recruté plus de 3000 personnes en France.
Et Thales n'est pas une exception. Laurine, toute l'industrie de la défense recrute énormément en ce moment en France.
Sur les plateformes d'emploi, beaucoup d'industriels publient des annonces, des noms très connus du secteur comme Dassault et Safran, des moyennes entreprises, mais aussi la Direction Générale de l'Armement, sa directrice des ressources humaines, Caroline Krivinski.
Pour faire face à nos enjeux aussi d'accompagnement de ce réarmement, on est entre 500 et 700 recrutements en moyenne par an, à la fois des jeunes diplômés, mais aussi des personnels expérimentés qui viennent de l'industrie ou bien des métiers techniques.
Cette vague de recrutement sans précédent concerne tout le secteur et ses besoins vont s'accentuer ces prochaines années, prévient Benoît Labrousse, président de Randstad France, grand cabinet de recrutement.
Alors, l'industrie de la défense, c'est à peu près 200 000 emplois en France. Sur les 200 000 emplois en France, il y en a à peu près 10 000 qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Et on projette que d'ici 2030, sur les 200 000, à peu près 60 000 personnes vont partir à la retraite.
Mais trouver des candidats s'avère compliqué car ce sont bien souvent des métiers en pénurie et pas seulement dans le secteur de la défense.
Si je regarde les soudeurs, si je regarde les techniciens de maintenance, si je regarde les chaudronniers, toute l'industrie les recherche. Aujourd'hui, nous, on travaille avec nos clients et avec les institutions type France Travail pour identifier des personnes en reconversion ou des personnes qui, en les formant, permettraient d'avoir ce type de compétences.
Les entreprises de la défense cherchent donc à recruter par tous les moyens. Elles proposent des salaires plus élevés que dans le reste de l'industrie. Elles débauchent dans des secteurs en crise, comme l'automobile, et cherchent des profils plus jeunes qu'elles forment en partie elles-mêmes à travers des stages ou de l'alternance.
France Info, reportage de Laurine Benjebria.
France Info, Milan Cortina 2026.
Et oui, nous parlons des Jeux Olympiques d'hiver. Ce matin, la France se hisse à la 7e place du tableau des médailles. C'est Mathis Deloge qui débloque le compteur pour les Bleus aux Jeux Olympiques de Milan Cortina. En début d'après-midi, le jeune Français de 23 ans a terminé deuxième de l'épreuve de skiathlon derrière le grand favori, le Norvégien Johannes Klebe. Cela faisait 10 ans que la France n'avait pas remporté une médaille dans cette épreuve de ski de fond. Mathis Deloge, ravi de faire briller sa discipline.
J'ai quand même à cœur de montrer que le ski de fond, c'est un sport exceptionnel. Et c'est un bel honneur d'ouvrir le compteur de médailles.
C'était votre objectif, cette course?
Oui, c'est sûr que je m'entraînais vraiment pour briller sur cette course. La préparation, elle a été très longue. J'ai fait des impasses et j'ai fait des choix forts. Mais aujourd'hui, j'en suis plus que satisfait, et c'est un bel accomplissement que d'avoir une médaille d'argent autour du cou.
Elle a presque le goût de l'or, non, derrière Klebe?
Ouais, bah c'est sûr que c'est super, j'en reviens toujours pas, et ouais, c'était un jour de fou, tout était aligné, que ce soit le staff au sein de l'équipe de France de ski de fond et aussi ma forme, les skis, tout était aligné, donc c'est un bel accomplissement et j'en suis vraiment fier.
Quand vous vous retrouvez, deux Français, deux Norvégiens, les Norvégiens qui sont les rois absolus de cette discipline, vous dites quoi? Vous dites, nous les Français, on est à la hauteur des Norvégiens aujourd'hui?
Bah, je pense qu'on a montré qu'on était une nation qui était forte. Ça fait quelques temps que moi j'en suis sûr. Maintenant, on avait besoin d'une course comme ça pour le montrer à tout le monde. Et je pense que la suite peut que être très, très belle.
La suite, c'est d'autres médailles pour vous?
Pas que pour nous, pas que pour moi. Je pense qu'il y a des sprinteurs qui sont très en forme. Les distanceurs, on est aussi très en forme. Et d'un point de vue collectif, je pense qu'on est... On est prêt et je pense que l'avenir peut que être rempli de médailles.
Mathis Deloge sur France Info avec Frédéric Carbone, et l'ancien entraîneur de Mathis Deloge a suivi la course forcément avec beaucoup d'émotion. Michael Gambi a entraîné le fondeur alors qu'il était adolescent. Il se souvient d'un athlète déterminé à réussir.
C'est ce qu'il voulait. Il a tout mis en place pour y arriver. Il a toujours voulu ça. Il a les qualités pour, en fait. Et donc oui, il n'y a pas de hasard. Et ça reste un athlète d'exception et ça se voit assez rapidement, même chez les jeunes.
Alors il a 23 ans. Est-ce que ça veut dire que là, il a une très belle carrière encore devant lui?
Oui, c'est que le début pour lui parce que on reste un sport à maturité tardive et chaque année d'entraînement compte. Et en fait, c'est vraiment, vraiment que le début. C'est son premier podium en senior, en tout cas entre Coupe du Monde, Championnat du Monde et JO. Et oui, c'est que le début, c'est sûr.
De manière peut-être plus générale, et notamment pour les enfants qui regardent ces Jeux Olympiques, est-ce que cette médaille, comme d'autres qu'on a vues aujourd'hui dans le camp français, est-ce que ça peut susciter des vocations? Est-ce que vous vous attendez aussi à des retombées positives dans les prochains mois?
Ben, comme je le disais, on a regardé la course au bord d'une piste avec des dizaines de jeunes athlètes, puisque c'était une course nationale avec des athlètes de moins de 15 ans. Et c'est clair que tout le monde avait les yeux qui brillaient, tout le monde était heureux de vivre ça. Et en fait, finalement, c'est les émotions, notamment celles qui sont partagées, qui poussent les jeunes à venir vers le ski nordique et vers le ski de fond. Ouais.
Michael Gambi, l'ancien entraîneur de Mathis Deloge, médaillé aux Jeux de Milan Cortina hier, il répondait aux questions France Info de Boris Loumagne. Un peu plus tard, le relais mixte français en biathlon a offert la première médaille d'or à la France.
France Info. 5h-6h.
Nous sommes à Annecy, dans une minute où le maire sortant ne se représente pas. On verra pourquoi et quels sont les enjeux du scrutin qui se déroule le 15 mars prochain. En attendant, il est 5h19 sur France Info. Bonjour Diane Ferchit.
Bonjour à tous.
À la une, ce matin, 9 CRS comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris.
Ils avaient matraqué des manifestants dans un fast-food non loin des Champs-Élysées lors d'une mobilisation des Gilets jaunes. C'était en 2018, des CRS qui vont répondre de violences volontaires avec plusieurs circonstances aggravantes. Certains en cours jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Un mineur et 5 autres personnes âgées de 18 à 20 ans interpellés dans l'enquête sur l'enlèvement et la séquestration d'une magistrate et de sa mère près de Grenoble. Le mari de la magistrate, un entrepreneur du secteur des crypto-monnaies, avait reçu une demande de rançon. Les gardés à vue sont connus de la police pour de la petite délinquance. En Iran, 6 ans de prison pour la prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, la militante des droits humains, arrêtée en décembre dernier après avoir pris la parole en hommage à un avocat retrouvé mort. Son avocat s'inquiète de sa mauvaise santé. Il espère qu'elle va pouvoir être libérée sous caution pour être soignée. Le PSG s'installe sur la première marche du podium avec 2 points d'avance sur Lens à l'issue de la 21e journée de Ligue 1 de foot. Victoire 5-0 sur Marseille, des Marseillais qui tombent à la 4e place.
France Info. C'était un objectif du camp macroniste, s'implanter localement, durablement. Le premier tour des élections municipales, c'est dans un peu plus d'un mois maintenant. Le parti d'Emmanuel Macron envisage de s'installer à la tête d'Annecy, en Haute-Savoie. La ville d'environ 130 000 habitants fait partie des 30 plus grandes villes de France. Le maire sortant ne se représente pas. Un ancien ministre, Antoine Armand, fait figure d'épouvantail, Paul Barcelone.
Un macroniste en tête dans les sondages, un macroniste favori pour remporter la mairie. Oui, Annecy fait figure d'exception.
Bonjour monsieur, quand le tract est par là, j'apparais.
Celui qui apparaît donc sur le marché de la vieille ville, c'est Antoine Armand.
Vous connaissez le candidat ?
Ben figurez-vous que j'ai déjà voté pour lui 5 fois aux législatives. Il a le profil idéal pour être maire d'Annecy.
Sur le CV du député de la circonscription de grandes écoles parisiennes et un poste de ministre de l'économie, 3 mois sous Michel Barnier.
Qu'est-ce qu'on entend sur le terrain ?
Eh bien, on entend que vous êtes favori.
Bon, ben, on va essayer de transformer l'essai. Il faut surtout que ça change, non ?
Ah, ben, bien sûr qu'il faut que ça change.
Plus de places de parking, une brigade cynophile sur ses tracts.
Bonne continuation. Ben,
merci à vous.
Pas de photo de Gabriel Attal dont il est proche ou d'Emmanuel Macron, non. Cette recette-là ne marche plus, assume Antoine Armand.
Je comprends l'idée de dire est aujourd'hui, ah, on aimerait se cacher de ce qu'on est. Pas du tout. Les Anneciens me connaissent. Ils savent d'où je viens, qui je suis. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la politique nationale n'est pas à l'ordre du jour.
Ce qui n'empêche pas les tentatives d'alliance, parfois les arrangements, au contraire.
Nous avons discuté beaucoup, cherché à nous entendre pour qu'un accord puisse être possible. Il n'a pas eu lieu.
Jean-Luc Rigaud, maire d'Annecy, entre 2007 et 2020, se lance donc en solo.
Moi, je donne rendez-vous aux Annéciens le 15 mars. Si on doit se retrouver au deuxième tour pour faire une alliance entre la ville et l'agglomération, pourquoi pas ? On ne reproduira pas 6 ans de bazar comme ça s'est passé.
Exactement ce que décrit cet habitant rencontré près de la gare.
Ah, on est arrivé à Annecy il y a longtemps, c'était fleuri, il y avait la police qui passait, mais il n'y a plus rien qui se fait. Là.
Alors après 6 ans de mandat, le maire sortant, l'écologiste François Astorgue, ne se représente pas. Son adjoint aux finances, Alexandre Mulatier-Gachet, reprend le flambeau ici en réunion publique, sans renier tout le bilan.
Les végétalisations, les rénovations d'écoles sportives, culturelles. Après, il y a une partie qui est rejetée par moi le premier, qu'on a fait par dogmatisme. On a voulu exclure les voitures sans proposer d'alternative.
Soutenu par la gauche, mais pas par la France insoumise, cet ingénieur joue la carte de l'hyperproximité.
Pour moi, le maire, il doit être là pour résoudre les problèmes du quotidien.
Car à l'entendre, ces problèmes concrets échappent justement à Antoine Armand.
Pour lui, Annecy est simplement un marchepied pour des ambitions nationales.
Ce qui le rend d'abord comptable du bilan d'Emmanuel Macron.
Bien sûr qu'il est comptable. Et il a été quand même ministre dans ce gouvernement. Et de dire que nous, on a mal géré la ville alors que c'est lui qui est venu nous prendre 5 millions. Et à un donné, il faut être sérieux.
Du carburant pour la liste du Rassemblement National. En embuscade, le RN pourrait faire son retour au conseil municipal et ainsi définitivement mettre en échec la stratégie des soutiens d'Emmanuel Macron, se présenter comme le dernier rempart.
Et à Annecy, la liste soutenue par le Rassemblement National est menée par Guillaume Roth-Lévesque, celle de la France Insoumise par Vincent Drême pour l'Avenir en Commun. On peut aussi citer la liste sans étiquette conduite par Daniel Salem-Chiad. Et voici le monde d'Élodie avec Élodie Suigo et son invité.
Bonjour Philippe Torreton.
Bonjour.
Vous êtes ce comédien en franc-parler sans filtre, indissociable du théâtre, du cinéma, de la télévision. Vous avez d'ailleurs reçu un Molière pour votre interprétation de Cyrano, un César pour ce rôle incarné d'une main et d'une voix de maître d'ailleurs, du fameux capitaine Conan de Bertrand Tavernier. Vous êtes quasiment de tous les combats. On vous a découvert en petit-fils avec Mémé, un livre et un documentaire qui retrace le parcours de votre grand-mère, mais indirectement de nos grand-mères à nous. Et là, vous publiez Veillée aux éditions Calmann Lévy dans la collection L'Engagé, un récit devenu poème d'une expérience de vie qui vous a changé, une immersion pendant 3 nuits au sein des équipes du SAMU social. Le livre sort mercredi. Et en parallèle, dès le 13 février, vous serez sur scène au Théâtre Antoine en John Keating, donc ce fameux professeur de lettres dans le cercle des poètes disparus. L'histoire se déroule en 59 aux États-Unis, c'est la rencontre entre Todd Anderson et le professeur que vous incarnez, donc John Keating, qui enseigne d'une façon peu orthodoxe. Ce prof, il est basé sur le carpe diem. Et quand on regarde ce rôle, on se dit que c'est quasiment du sur-mesure pour vous, Philippe Theuret. Donc ça vous correspond pleinement.
C'est agréable parce qu'il y a des comparaisons infiniment moins flatteuses. En tout cas, ça correspond à des tas de choses qui m'obsèdent. Je viens de là, j'ai rencontré mon professeur Keating en classe de 5e, qui m'a fait découvrir le théâtre. Et c'était un vrai pas de côté. On se souvient toujours des professeurs qui nous ont fait faire un pas de côté, en sortant, en allant en forêt, en faisant découvrir des choses. Et en fait, la moyenne, c'est-à-dire le prof ni bon ni mauvais, ni sympa, ni bête, enfin, on s'en souvient pas. On se souvient de ce qui dépasse. Alors évidemment, dans le négatif aussi, le prof particulièrement vachard ou tout ça. Mais on se souvient de ce qui a débordé. Et j'ai envie de dire, baf, qu'est-ce qu'on attend pour déborder alors ?
Il y a une suite logique, quasiment, avec effectivement l'aventure Mémé. Ce qu'on comprend, c'est que votre regard, au fil du temps, s'est de plus en plus affûté à vous focaliser sur l'essentiel.
Oui, et puis le théâtre m'a fait comprendre très vite que le temps n'existe pas, en fait. On croit qu'on a le temps, et puis on se retrouve à 19h55 en coulisses. Le spectacle va commencer dans 5 minutes, et on n'a pas vu le temps passer des répétitions. Donc le théâtre m'a amené quand même à savoir profiter de ça, de chaque instant. Moi, c'est ce que je dis souvent aux jeunes comédiens avec qui je répète. Faut pas procrastiner en répétition. Faut faire tout de suite et maintenant. Il y a une urgence à jouer. Je l'ai chevillé en moi.
Ce que montre John Keating, c'est à quel point c'est important d'affronter le conformisme.
L'aventure extraordinaire de penser par soi-même. Ça ne veut pas dire que ce qu'on pense est juste. D'essayer tout seul. Et c'est marrant parce que mon premier livre s'appelait « Comme si c'était moi ». Et à la fin du livre, je disais « Il faut déchirer les préfaces ». C'est exactement ce que fait John Keating. Je ne supportais pas qu'on me dise, avant que je le découvre, pourquoi cette pièce est géniale, pourquoi ça... Enfin, j'avais envie de dire, laissez-moi découvrir. Scapin, par exemple, qu'on étudie en 5e. J'ouvrais Scapin et ça me tombait des mains. Je savais même pas où était le texte, tellement il y avait de notes, de photos, d'astérix, de machin, etc. Et du coup, pour des élèves comme moi, c'est compliqué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la littérature, c'est pas fait pour toi. Parce qu'il faut tellement de professeurs pour mettre des repères chronologiques et des choses comme ça. Ça veut dire que ça va être très compliqué pour toi et que t'es pas assez intelligent. Donc, on rejette.
Je voudrais qu'on parle de votre écriture aussi, parce qu'il y a
avec plaisir
cette dimension depuis Mémé de l'écriture. Là, ça s'appelle Veillée. C'est un poème-récit bouleversant qui est un condensé poignant et juste de 3 nuits blanches que vous avez passées au sein des équipes du SAMU social à Paris. Vous écrivez « J'ai commencé à rédiger, mais les phrases sentaient la phrase ». Et rien n'était à la hauteur des chocs éprouvés. La littérature se faisait indécente.
Eh oui, ça m'a percuté. Parce qu'une chose est de passer devant quelqu'un qui tend la main, et puis parfois on a une petite pièce, parfois on n'a rien, parfois on se dit, tiens, bah dans la boulangerie, je vais lui acheter ça. Enfin, bon, et puis on a tous nos assos, on fait des petits dons comme ça, etc. Et c'est très bien. Mais une autre chose est de s'asseoir, de s'accroupir, et de parler, et de découvrir une vie, voir que la rue vous dégrade en quelques semaines. Il y a 15 ans, il y avait 150 000 personnes à peu près dans la rue. Il y en a 300 000. On a doublé en 15 ans. Qu'est-ce que c'est que cette société-là ? Comme le faisait remarquer de façon très simple Jean-Marie Le Clézio, il dit « Mais pourquoi on ne regarde pas ça ?» Tout simplement. On devrait tous faire ça parce que c'est ça change la vie, vraiment.
Le titre, c'est « Veiller ».
Veiller.
C'est quoi « Veiller » ?
J'ai envie de dire « Soyons attentifs, veillons les uns sur les autres ». Moi, je trouve que le plus grand danger de notre époque, c'est le manque d'empathie. On va se foutre sur la gueule, pour des tas de raisons. Et si on n'en a pas, on va en inventer. Parce que, de plus en plus, on va être dans un monde où, oui, je sais, vous en avez besoin, mais moi aussi. Et je suis plus fort, donc je le prends. C'est déjà ce qui se passe, hein, je suis pas naïf. Et ça va être comme ça, au cœur même de nos sociétés. Le plus grand acte de résistance dans les années à venir, ça va être la gentillesse.
Capitaine au capitaine, Philippe Theureton, oui. Merci beaucoup d'être passé dans le Monde d'Élodie sur France Info. Ça démarre le 13 février prochain au Théâtre Antoine-Jean-Marc Dumonté à Paris. Et puis, à votre livre Veillée, qui sort mercredi chez Calmann Lévy, dans cette collection qui s'appelle L'Engagé. Merci beaucoup.
Ah oui, merci.
Merci Élodie Suigaud sur France Info.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
On va reprendre notre sérieux, Christine Peña.
Oui, bah, d'un côté, il est 5h29. Je pense que les auditeurs peuvent être indulgents.
Ils le sont et ça les fait rire, j'espère.
Oui, bon. Vous nous dites donc ce matin qu'il y a encore de la pluie et du vent au programme.
Oui, toujours. Alors que la dépression Martha copieusement arrosé d'ailleurs le sud du pays ce week-end, elle s'éloigne. Elle donnera encore de la pluie en Corse. De nouvelles pluies arrivent par l'ouest, par la Bretagne et le long du littoral atlantique avant d'arroser une bonne moitié ouest du pays dans l'après-midi avec des pluies les plus soutenues pour le sud-ouest et les Pyrénées, donnant de bons paquets de neige d'ailleurs en altitude sur les Pyrénées, du vent également qui se renforce sur les autres régions du nord jusqu'à Paris, du centre et à l'est. Le temps restera calme, sec, avec de nombreux brouillards ce matin qui pourront se montrer tenaces en journée entre le Val-de-Loire, la Lorraine, les Ardennes ainsi que les Hauts-de-France. Pour les températures, ça évolue que très peu. Ça baisse un petit peu au nord à cause du retour des nuages. À Paris, par exemple, on a eu 14 degrés hier.
Oui, c'est agréable.
Un petit 11 cet après-midi, 8 à Lille et encore jusqu'à une quinzaine de degrés dans le sud, du côté de Biarritz ou encore de Marseille.
Bah, merci beaucoup alors.
Hein. Bah oui, elle recommence.
Merci Christine Peña. Merci à tous d'écouter France Info, il est 5h30.
France Info. Maureen Suignard.
Le prix des poireaux et des choux dégringole, vous l'avez peut-être remarqué ces derniers jours. La première région productrice française tire la sonnette d'alarme. La FDSEA de la Manche fait de nouveau entendre sa voix. Aujourd'hui, le prix des légumes sont trop bas. Les maraîchers ne peuvent pas vivre de leur production et la filière est fragilisée. Les récoltes sont en hausse alors que la consommation elle n'augmente pas, ce qui fait baisser les prix. Et cela agace les maraîchers que vous avez rencontrés à Paris, Valentin Dunat.
Madame, bonjour.
Il s'appelle Max, ça fait 20 ans qu'il est primeur.
Rungis, c'est la bourse, c'est l'offre et la demande. Tout simplement, le prix constant, ne serait-ce que du poireau.
Restons sur le poireau, par exemple.
1,50€ le kilo à Rungis.
Et là, vous l'avez payé il y a quelques jours.
1,20€ samedi.
Donc ça fait, il y a quand même 30 centimes.
Mais 30 centimes, ça s'appelle pas casser la gueule, ça. Hein, c'est...
Bah pour les producteurs, ils ont l'air de dire que c'est beaucoup.
Oui, mais, ça, c'est au niveau de l'armargeuse, ils ont qu'à se battre.
C'est donc ce qu'il compte faire, hein, sauf que ça n'est pas simple de demander aux Français de consommer ces légumes d'hiver. Pour Claudia, par exemple, le poireau...
Un peu, chou, jamais. Clairement, le chou, ça ne nous intéresse pas.
Pourquoi ?
À part dans la choucroute. Je sais pas, on ne sait pas le cuisiner, c'est pas très attrayant comme légume.
De son côté, Pierre, qui est cuisinier, l'admet, ses légumes...
Je pense qu'ils sont un peu plus boudés. Le chou, de base, c'est un peu plus amer, et c'est vrai que les enfants voient le chou comme quelque chose de pas bon, je ne sais pas pourquoi. Et le poireau, il y a aussi un sujet, c'est qu'on jette une grosse partie du légume, alors qu'en réalité, tout le légume est consommable.
Donc, pour tenter de surmonter cette crise, les producteurs demandent aux distributeurs d'augmenter leurs prix.
Mais ça n'a pas de sens, parce que si déjà on ne consomme pas beaucoup et qu'en plus on augmente les prix, les gens ne vont pas acheter. Il y a une crise économique qui est là et qui est extrêmement présente.
De leur côté, les producteurs, ils sont 200 au total dans la Manche, disent qu'en l'état actuel, ils ne peuvent plus vivre de leur production.
France Info reportage de Valentin Dunat. Les syndicats du verrier Arc et des élus locaux du Nord seront reçus au ministère de l'Économie aujourd'hui. L'entreprise a été placée en redressement judiciaire. L'avenir de 3500 salariés est en jeu. Deux offres de reprise sont étudiées en ce moment par le tribunal de commerce de Lille. Le parquet annonce clore l'enquête à Marseille. Le député de la France Insoumise, Sébastien Delogu, était soupçonné d'avoir échangé avec un trafiquant de drogue. Celui qui est aussi candidat à la mairie de Marseille a échangé avec cet homme, mais pour des livraisons de meubles. L'homme condamné pour trafic de drogue travaille effectivement pour une société de livraison. Donald Trump qualifie le spectacle de Bad Bunny d'affront à la grandeur de l'Amérique. Le président américain s'est exprimé après le spectacle du chanteur à la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de foot américain. Pas de missive anti-Trump cette fois, contrairement à son discours lors des Grammy Awards, mais un message a été diffusé sur un écran géant. Seul l'amour est plus fort que la haine. Le biathlon tricolore, lancé idéalement dans les Jeux Olympiques de Milan-Cortina en Italie, après le titre hier sur le relais mixte, comme en 2018. Les Français sont donc champions olympiques dans ce format. Première Marseillaise donc et première médaille d'or autour du cou de Julia Simon.
Ouais, elle est belle, elle est sympa, hein, elle est sympa. Après, c'est toujours particulier. Voilà, on espère que c'est la première d'une petite série, on verra. C'est un bel objet. Les grands événements comme ça, quand il y a la Marseillaise, c'est là où ça met vraiment les petits frissons et où on prend un peu plus conscience des choses aussi. Et je pense que là, il va falloir un petit peu de temps pour redescendre, pour comprendre aussi ce qui vient de se passer. Parce que c'est vrai qu'on passe la ligne, on est directement dans le tourbillon. Je pense que peut-être mes collègues ont un peu plus réalisé. Bah, j'ai contrôle antidopage, donc je pense que je vais avoir le temps de réfléchir et de penser à tout ce qui s'est passé là.
La biathlète Julia Simon, c'est un classico à oublier pour les Marseillais. Les Parisiens se sont imposés 5-0 face à l'OM hier soir en Ligue 1, notamment grâce à un Ousmane Dembélé très en forme. Paris est premier du championnat devant Lens et Lyon. L'OM est expulsé du podium pour la première fois depuis 5 mois et demi.
France Info, 5h-6h, Maureen Suignard.
Un week-end encore meurtrier en montagne. Deux skieurs de randonnée sont morts dans une avalanche à Saint-Véran dans les Hautes-Alpes et un skieur a été retrouvé mort enseveli dans une avalanche, cette fois en Haute-Maurienne, en Savoie. Depuis le début de l'année, 12 personnes sont mortes dans des avalanches dans les montagnes savoyardes. Jean-Luc Bock, le maire de la Plagne et président de l'Association nationale des maires des stations de montagne, appelle les skieurs à respecter les consignes de sécurité et les panneaux indiquant des zones interdites dangereuse.
On a des conditions en fait de neige qui sont assez hétérogènes et surtout il n'y a pas de cohésion au niveau du manteau neigeux. Donc pour l'instant, la meilleure des choses à faire, c'est de rester prudent et d'éviter déjà, surtout si on n'est pas équipé, si on n'a pas de connaissances, si on n'a pas d'encadrement spécialisé, des guides, des moniteurs, d'aller en zone de hors-piste parce que ça peut se déclencher de partout et à tout moment.
Vous êtes inquiet pour les prochains jours parce que c'est le début des vacances scolaires.
On est inquiet et d'un autre côté, on a formé tous nos pisteurs sur chacun des domaines à la sécurité. Il y a des drapeaux d'avalanche de partout, il y a une sécurisation et un empêchement matériel pour aller dans les endroits vraiment sensibles et recensés comme dangereux. Donc il faut vraiment écouter les professionnels et si vraiment les spatules démangent trop les clients, qu'ils se fassent encadrer, qu'ils prennent toutes les précautions, parce que la première des choses quand on part en vacances, c'est de rentrer entier à la maison.
Vous parlez des panneaux et des cordes qui délimitent, et on le sait hein, clairement, les zones interdites ou les zones de danger. Comment vous expliquez que ces consignes ne soient pas respectées? Les skieurs sous-estiment le danger?
En fait, quand vous avez un manteau immaculé, quand tout est blanc, vous ne voyez pas le danger. Et si vous n'avez pas les codes, si vous ne connaissez pas la montagne suffisamment, malheureusement, c'est trop tentant, c'est trop motivant quand on a un niveau de ski acceptable, voire très bon, de se dire « il fait très beau ». On a une neige exceptionnelle, il n'y a pas de traces. Pourquoi je ne serais pas le premier à faire ma trace? Mais quelquefois, il faut savoir renoncer.
Est-ce qu'on peut imaginer des sanctions plus strictes parfois pour ces skieurs qui franchissent des zones interdites?
Déjà, la problématique, s'ils se font prendre, s'ils sont victimes d'un accident, si corporellement ils sont touchés, voire ils décèdent par rapport à ces avalanches, je pense qu'on va pas sanctionner ces pauvres personnes déjà qui sont suffisamment embêtées comme ça. Mais il faut jamais oublier que quand vous partez en avalanche, non seulement vous entraînez les personnes qui sont avec vous, c'est-à-dire les personnes qui skient avec vous, mais vous risquez d'ensevelir des personnes qui sont en contrebas, dans d'autres couloirs, dans d'autres zones avalancheuses que vous n'avez pas détectées, et surtout vous faites prendre beaucoup de risques aux sauveteurs secouristes qui viennent vous chercher.
Justement, quand vous échangez avec les secouristes, que vous disent-ils? Parfois, ils en ont marre, tout simplement.
Non, ils n'en ont pas marre, c'est leur métier.
Non, mais de l'imprudence de certains skieurs.
Mais par contre, oui, ils ne comprennent pas quand tout est fait pour empêcher. On ne va pas mettre des barbelés, des miradors pour empêcher les gens de passer. Mmh. La montagne est d'abord un lieu de liberté. Et ce lieu de liberté, il faut le respecter. Et quand la montagne est trop dangereuse, comme la mer, eh ben, il faut savoir renoncer.
Jean-Luc Bock, comment on sécurise les pistes justement? Chaque jour, il y a des repérages et des aménagements si nécessaire, des déclenchements d'avalanches?
Tous les jours qui nécessitent en fait une instabilité du manteau ou alors lors de nouvelles chutes de neige suffisamment importantes, il y a un déclenchement préventif qui est réalisé avec des gazex, qui est réalisé avec des systèmes de pisteurs qui vont sur des zones dangereuses avec de l'explosif et qui préviennent justement les risques sur les pistes en déclenchant préventivement ces couloirs, ces zones en amont des pistes. Quand vous allez sur une piste de ski, elle est sécurisée. Quand elle est ouverte, elle est sécurisée. Mais vous pouvez dépasser les jalons de bord de piste de 10 mètres et là, vous êtes en hors-piste. Donc, vous n'êtes plus sécurisé par les pisteurs secouristes qui le font quotidiennement.
On observe des chutes de neige très abondantes, puis du redoux. Est-ce que le dérèglement climatique aggrave la situation en montagne, selon vous ?
Il n'arrange rien. C'est-à-dire que aujourd'hui, cette instabilité, quand vous avez une neige abondante et froide qui tombe sur un manteau glacé, ou quand vous avez des radoucissements qui font que la cohésion du manteau neigeux, des cristaux de neige entre eux, n'est pas bonne, ça n'arrange rien. Oui, on peut dire aujourd'hui que le dérèglement climatique, évidemment, il agit aussi sur la cohésion du manteau neigeux.
Ça veut dire que les stations de ski vont devoir s'adapter dans l'avenir ?
On s'adapte déjà, on fait tout ce qu'il faut en sécurisant toutes les pistes à 99,99%. Le 100% n'existe jamais malheureusement, mais en tout cas tout est sécurisé. Par contre, en hors-piste, vous avez tellement de zones qui sont vierges de toute trace que c'est quasiment impossible d'empêcher les gens d'y aller. Vous rappelez simplement que la montagne aménagée, c'est 2% du massif montagneux français. Il y a 98% qui restent vierges.
Jean-Luc Bock, le président de France Montagne, au micro France Info de Catherine Potier. Le régime des mollahs poursuit sa répression. Les autorités iraniennes ont annoncé l'arrestation de 3 personnalités politiques hier, dont la chef de la principale coalition des réformateurs. Et un tribunal vient de condamner à 6 ans de prison Narges Mohammadi, la lauréate du prix Nobel de la paix en 2023. La militante des droits humains, âgée de 53 ans, avait été arrêtée en décembre dernier avec d'autres militants après avoir pris la parole lors d'une cérémonie en hommage à un avocat retrouvé mort. Shirin Ardanaki est la présidente de l'association Iran Justice. Elle est aussi l'une des avocates de Narges Mohammadi.
Hélas, c'est le sort de Narges Mohammadi qui, depuis des décennies, fait des allers et retours avec la prison politique. Le 12 décembre dernier, vous l'avez rappelé, elle a été arrêtée avec d'autres militants des droits humains alors qu'elle avait pris la parole au milieu d'une foule de Bassidi, ces milices qui d'ailleurs ces dernières semaines ont ouvert le feu sur des milliers et des milliers de manifestants, et malheureusement nous craignons cela, et voilà que le couperet est tombé.
Elle a des problèmes de santé, des problèmes très importants de santé. Elle avait pu être soignée, de sortir de prison en décembre dernier. Est-ce que vous espérez que ça sera possible aussi dans les jours qui viennent ?
Alors, ce sera possible s'il y a une mobilisation intense de la communauté internationale. D'ores et déjà, évidemment, on appelle le secrétaire général des Nations Unies, mais plus largement l'Europe, qui, dans le cadre d'une campagne menée avec les ONG en décembre dernier, avait soutenu la demande donc de mon confrère iranien, Mostafa Nili, avocat qui avait demandé cette permission de sortie. Vous l'avez rappelé, Narges Mohammadi, comme beaucoup de prisonniers politiques, elle fait l'objet de refus de soins lorsqu'elle est en détention. C'est cette technique, en réalité, de l'administration pénitentiaire qui consiste à laisser mourir à petit feu les prisonniers politiques en leur refusant des transferts vers des établissements de santé, en leur refusant des traitements médicaux, alors même qu'ils y ont évidemment parfaitement le droit, en les soumettant, et c'était le cas de ma cliente depuis presque 2 mois, à l'isolement cellulaire dans des conditions évidemment inhumaines et dégradantes de détention, sans pouvoir accéder par exemple à la lumière du jour, sans pouvoir être visitée par personne et sans pouvoir communiquer avec l'extérieur. Et donc ma cliente malheureusement va retrouver ces conditions de détention extrêmement dures. Il lui reste un quantum de peine aujourd'hui de près de 18 ans de prison à purger, et on comprend qu'il s'agit de faire taire toutes les voix dissidentes aujourd'hui dans le pays qui vont au-delà même celui de Narges Mohammadi.
Et on apprend d'ailleurs qu'aujourd'hui, 3 figures du camp réformateur ont été également arrêtées en Iran. Si je vous comprends bien, Shirin Ardakani, c'est que vous ne pouvez pas avoir de nouvelles de votre cliente. Elle est totalement isolée, c'est cela ?
Oui, tout à fait. Depuis le 12 décembre dernier, en réalité, il n'y a eu que quelques minutes d'échange à 2 occasions. Une première fois avec son frère et puis avec mon confrère iranien il y a quelques heures. On comprend bien l'idée qui est celle de la République islamique qui a commis ces dernières semaines des véritables crimes contre l'humanité. On parle de plus de 30 000 personnes qui ont été tuées pendant la répression des manifestations, plus de 50 000 prisonnier politique, si bien que ma cliente s'est retrouvée ces dernières semaines aux côtés, bien qu'à l'isolement cellulaire de manifestants qui parfois étaient très jeunes et qui pour la première fois connaissaient les prisons politiques. Aujourd'hui, notre demande, nous militants des droits humains, moi en tant que conseil, elle est très claire à l'égard de la communauté internationale, c'est d'appeler immédiatement à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques. Parce que s'il y a une solution politique qui se dégage contre ce régime iranien, eh bien, ce seront les voix de l'intérieur du pays, les voix dissidentes, qui demain eh bien, permettront une opposition structurée de voir le jour. Et on voit bien, malheureusement, que tant que ce régime procède à ses exécutions et à ses arrestations en masse, eh bien, cela sera mal engagé.
Chirine Ardakani avec Renaud Blanc sur France Info. Du nylon, du polyester, de l'élastane, nos vêtements sont pleins de plastique et ces fibres finissent dans l'océan à cause des lavages. Des chercheurs ont inventé une machine pour contrer le phénomène. C'est dans une minute après le récap de l'actu.
France Info. 5h-6h.
5h45 sur France Info et à la une, Diane Ferchit. Déjà deux médailles pour la France aux Jeux Olympiques.
Dont une médaille d'or pour le relais mix de biathlon et nouvelle chance de podium aujourd'hui pour les Français dans une discipline qui fait son entrée au jeu. Le combiné par équipe, un duo entre un descendeur et un slalomeur, ce sera à partir de 10h30. C'est une information France Info. Le groupe Thales recrute 9000 postes dans le monde cette année, dont 3300 en France. Après y avoir déjà embauché 3000 personnes, l'an dernier une vague de recrutement sans précédent dans l'industrie de la défense. Le parquet clôt l'enquête sur Sébastien Delogu. Enquête clôt sans poursuite. Elle concernait des échanges présumés entre un dealer et le député de la France Insoumise. Sébastien Delogu est candidat au municipal à Marseille. L'entrée au Panthéon de l'historien et résistant juif Marc Bloch aura lieu le 23 juin prochain, 82 ans après son exécution par la Gestapo en 1944. Sa panthéonisation avait été annoncée par Emmanuel Macron il y a un an et demi. Panthéonisation pour son œuvre, son enseignement et son courage.
France Info. Vous avez peut-être fait quelques lessives ce week-end. Une tâche domestique qui, vous n'en avez peut-être pas forcément conscience, pollue l'environnement puisque nos vêtements sont majoritairement constitués de fibres synthétiques. Et en les lavant, des milliards de microfibres sont relâchées dans l'océan. Mais des chercheurs français viennent de mettre au point une machine capable de capter ces microparticules lors des cycles de lavage, dans les pressings ou les blanchisseries. Un prototype qui a fait ses preuves près de Lyon et qui a vocation à être industrialisé, Boris Allier.
Cette machine, constituée de tubes, de tuyaux et de pompes, récupère l'eau sale à la sortie du lave-linge. Mais pas question d'installer un filtre qui pourrait s'encrasser. Les chercheurs ont préféré la technique de la flottation pour capturer les fibres synthétiques. Mathieu Dreillard, chef de projet à l'IFPEN, l'Institut Énergie Nouvelle.
On va comprimer l'effluent et ensuite on va le détendre et ça va faire un petit peu comme votre bouteille d'eau pétillante. Vous allez générer en fait des microbulles de taille contrôlée. Et en fait, ces micro-bulles d'air, elles vont capturer en fait les microplastiques qui n'aiment pas forcément l'eau et qui vont s'attacher en fait à ces bulles d'air et être remontées. Et là, vous allez pouvoir les concentrer et donc les éliminer.
À la fin du processus, ces bulles d'air chargées de microfibres synthétiques s'amassent et forment une sorte de mousse blanchâtre dans un réservoir.
C'est une mousse qui va contenir effectivement les microparticules. Il y aura un peu forcément d'eau aussi. Ce déchet, du coup, il va être géré de la même manière que les autres déchets qui peuvent déjà être générés par des pressings sur du solvant, par exemple, ou voilà. Et donc derrière, en fait, on va comprimer cette boue et in fine l'incinérer en fait.
Après 4 ans de mise au point, le prototype vient d'être testé dans un pressing près de Lyon avec des résultats à la hauteur des attentes.
Où nous, on a essayé donc de viser en fait un objectif de capturer plus de 80% de ces microparticules de plus de 50 micromètres.
Autant de microparticules qui ne polluent pas l'environnement, se réjouit Muriel Papin de l'ONG No Plastic in My Sea.
C'est intéressant pour les vêtements qui sont déjà sur le marché pour les blanchisseries, mais ce qui serait idéal, c'est que cette solution, elle soit utilisée en fait par les producteurs de vêtements pour avoir des pré-lavages des vêtements avant qu'ils soient vendus, parce qu'on sait que les premiers cycles de lavage, c'est là où on va relarguer le plus de microplastiques. Donc de les laver de manière industrielle avant de les mettre sur le marché, ça, ce serait vraiment une avancée importante pour la pollution microplastique.
Quant au lave-linge destiné aux particuliers, la loi AGEC de 2020 prévoyait qu'il soit équipé de filtres pour capter les microfibres. Mais à ce jour, aucun décret d'application n'a encore été publié.
France Info reportage de Boris Allier. Il est 5h48 sur France Info, l'heure du choix de France Info. savoir tout de ses amis, tout le temps, et cela grâce à la géolocalisation. C'est de plus en plus courant. On partage volontairement sa position à ses amis via des applications comme Instagram ou Snapchat. Ça peut être pratique, mais cela peut aussi virer à la surveillance. Bonjour Sandrine Etoindeg.
Bonjour.
C'est ce que vous racontent les adolescents que vous avez rencontrés devant un collège-lycée du sud de Paris.
Devant les grilles de son lycée, Ossine montre sur son portable sa SnapMap.
On voit que c'est en direct.
Une carte de Paris où se déplacent en temps réel les avatars, c'est-à-dire les doubles virtuels de ses contacts sur Snapchat.
Par exemple, ici, cette personne, elle est là. Là, on voit que cette personne, elle a été là-bas il y a à peu près une heure. Quand on y repense, c'est vraiment fou. Et franchement, ça marche bien en plus.
Lui active tout le temps cette fonctionnalité.
Par exemple, si je veux rejoindre un ami à moi, j'ai pas besoin de lui demander l'adresse où il est. Je regarde juste sa localisation et je peux accéder directement via ça à l'itinéraire pour y aller le voir.
Être géolocalisable, c'est un gain de temps, estiment même Laurali et Sarah sur le trottoir d'en face.
En fait, c'est comme envoyer un message, genre, mais juste sans forcément avoir à le faire, genre. Depuis qu'on est tout petit, on a grandi avec ça, du coup en vrai c'est banal, mais ça reste quand même vachement pratique.
Les meilleurs amis s'en servent aussi pour se rassurer.
Genre quand on sort le soir, des fois, pour savoir si elle est rentrée chez elle, je regarde sa loc.
Mais est-ce que vous êtes à l'aise, hors contexte soirée, hors sécurité, à l'idée que finalement votre amie, elle sache tout le temps où vous êtes?
Ouais. Parce que j'ai rien à lui cacher.
Une exigence de transparence comme une preuve d'amitié dont une de leurs camarades a fait les frais.
Juste, on était sortis, on nous avait dit qu'il n'y avait pas de soirée et tout. Finalement, bah, ça nous a pas dit, enfin bref.
Et finalement, il y avait une soirée, ouais.
On a vu sur la localisation d'une de nos amies qu'elle était à la soirée en question.
Après, on l'a appelée pour dire pourquoi tu nous mens, pourquoi tu nous as pas dit qu'il y avait une soirée et tout. J'avoue que ça peut montrer aussi la vraie image des personnes.
Un argument repris par Ossine qui admet avoir pisté une élève de sa classe.
Elle a oublié qu'elle m'avait mis sa géolocalisation. C'était pas vraiment ma copine, mais on parlait. Et au final, elle s'est entre guillemets tapée un ami à moi. Elle me disait oui, j'étais là alors qu'elle était chez un copain à moi.
C'est un peu de la surveillance.
Si, techniquement, c'est un peu ça, de la surveillance lointaine. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle fait, mais ouais, c'est ça en soi.
La géolocalisation, c'est aussi immiscé dans la vie amoureuse de Jules, 16 ans.
Là, j'étais avec une jeune fille à qui j'avais parlé, donc on devait se voir. Et mes amis qui n'avaient absolument rien à faire dans mon quartier se sont dit, bah, on va aller déranger son plan. Et donc on suit ma loc et donc mon tracé. Et du coup, c'est un petit peu dérangeant.
Angoissant même pour Céleste, qui garde le mauvais souvenir d'un ex-petit ami qui épiait ses moindres faits et gestes.
Quelqu'un qui était assez jaloux. Par exemple, j'étais chez ma copine et en fait, il m'avait dit « T'es où? T'es avec qui? Tu fais quoi ?» Parce qu'il m'avait jamais vu à cet endroit-là. Et il a cru que j'étais chez un autre mec et qu'il va se poser des questions. Et moi, je vais stresser si on a la géolocalisation activée. Et si elle n'est pas activée, justement, la personne, elle va nous dire « Pourquoi t'as enlevé ta localisation ?» etc. Et ça peut vraiment amener à des relations assez toxiques. Ça, c'est vrai que ça peut être assez prenant, même mentalement et tout. Fin...
Et c'est notamment pour ça que Louisa, en terminale, a pris cette décision.
Complètement enlever la géolocalisation de tous mes réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment curieux comme action en fait d'aller voir où les gens sont sans leur demander ou quoi. Donc j'ai pas du tout envie d'être en cours et de savoir qu'en fait il y a sûrement 5 personnes derrière leurs écrans en train de zoomer pour savoir où je suis. Ça me perturbe.
Très concrètement, détail fidé en tapant sur l'écran de son téléphone.
Par exemple là, je peux mettre ghost en mode fantôme, comme ça personne ne peut voir ma localisation.
Une manière de se protéger. Conclut la lycéenne.
Le choix de France Info, signé ce matin Sandrine Etoindeg, et c'est à retrouver sur franceinfo.fr. Quand une superstar est aussi une pro de la com, la playlist de France Info nous raconte comment Taylor Swift fait pour rester dans le top des chansons les plus écoutées. Lui est toujours au top au réveil de l'écho. Bonjour Emmanuel Cugny.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Ne rigolez pas, Emmanuel Cugny. Grâce à vous, toute l'actualité économique en trois titres tous les matins. Et vous nous dites ce matin que la France gagne des points en matière de commerce international.
Oui, notre déficit commercial passe en dessous des 70 milliards d'euros pour atteindre précisément 69 milliards 200 millions d'euros. Alors c'est une amélioration de 10 milliards par rapport à 2024 selon les derniers décomptes publiés par l'administration des douanes. La France continue d'importer importer plus de produits qu'elle n'en exporte, mais la situation s'améliore. Cela s'explique par le recul de notre facture énergétique, mais aussi par de meilleures ventes à l'étranger dans le secteur aéronautique. Concrètement, en 2025, les exportations françaises, tous secteurs confondus, ont progressé de 2,5%.
L'Allemagne signe un accord stratégique avec les Émirats arabes unis dans le secteur énergétique.
Oui, le groupe RWE, deuxième producteur d'électricité en Allemagne, vient de signer un protocole d'accord avec la principale compagnie pétrolière des Émirats pour la livraison de gaz naturel liquéfié, livraison qui pourront atteindre 1 million de tonnes annuelles pendant une durée de 10 ans. Selon RWE, cela correspond à près d'1,5 milliard de mètres cubes de gaz naturel chaque année, environ 2% de la consommation de gaz par l'Allemagne.
Et la bourse de Tokyo, Emmanuel, s'envole ce matin ?
Oui, c'est un bond de plus de 5% à l'ouverture cette nuit, au lendemain du triomphe électoral de la première ministre Sané Takaichi lors des législatives anticipées. Une élection qui ouvre la voie à des mesures accrues de relance budgétaire et puis à un colossal allègement fiscal.
Emmanuel Cugny, on vous retrouve sur France Info dans une demi-heure pour le Brief Éco.
Les boulangeries Poilane, placées en redressement judiciaire. La nouvelle est tombée ce week-end. La célèbre enseigne rencontre de graves difficultés financières et elle cherche à rebondir.
Merci beaucoup Emmanuel Cugny et à tout à l'heure. Il est 5h55 sur France Info et dans la playlist du jour, Diane Ferchit, vous nous parlez de la bonne astuce de Taylor Swift pour rester toujours au top.
Alors ne vous attendez pas à des révélations à Maureen sur le maquillage ou les coiffures parfaites de la superstar américaine. On va plutôt parler stratégie marketing. Taylor Swift qui a sorti ce week-end le clip de sa chanson Hoplite, un clip qui n'était pas visible sur YouTube pendant les premières 48 heures, mais uniquement sur Spotify et Apple Music.
Alors Diane, pourquoi Taylor Swift a-t-elle privilégié ces plateformes ?
Alors vous ne le savez peut-être pas, mais Taylor Swift est obsédée par les classements de ses chansons dans le fameux Billboard américain. Alors Hoplite est sorti en octobre dernier et après avoir occupé la deuxième place, le titre a logiquement reculé dans les charts. Le timing, la date de sortie du clip 4 mois après celle de la chanson n'est donc pas un hasard. Il s'agit en fait de relancer l'engouement. Le choix de le publier sur des plateformes payantes n'est pas un hasard non plus. Il est lié au changement de méthode du Billboard. Le classement a annoncé en décembre dernier qu'il privilégierait désormais le nombre d'écoutes des plateformes par abonnement plutôt que celles rémunérées par la publicité. D'où cette sortie de clip de Taylor Swift qui vient apporter de nouvelles écoutes massives de sa chanson sur ses supports, de quoi lui permettre de continuer à briller au firmament. Cette chanson, Maureen, c'est The Fate of Ophelia, tirée aussi du dernier album de la star. Chanson qui a dépassé, tenez-vous bien, le milliard d'écoutes sur Spotify.
Ah oui, ça fait beaucoup d'écoutes, c'est vrai.
Ça fait énormément d'écoutes. Taylor Swift, qui mérite bien le titre de reine de la stratégie. Elle qui a réussi aussi à battre un record vieux de 10 ans avec ce dernier album. 4 millions de ventes aux États-Unis lors de la toute première semaine de sortie du disque. Une gestion drastique de sa carrière qui lui vaut de dominer l'industrie musicale. Diane, pour la playlist de France Info. La reine de la météo, c'est Christine Peña. La météo dans un instant.
France Info, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina.
Jusqu'au 22 février, vivez les Jeux Olympiques d'hiver sur France Info.
Snowboard, biathlon, ski alpin,
patinage artistique, hockey sur glace,
les temps forts, les épreuves reines,
le parcours des Français et les meilleures chances de médailles.
Ne manquez rien des JO avec nos reporters et nos consultants sur place.
Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina, c'est sur France Info.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Christine Peña, vous nous dites qu'il y a encore de la pluie et de la neige en montagne.
Voilà, exactement, avec du vent également au programme de cette semaine qui sera particulièrement agité. Alors on est encore un peu dans la lignée de ce week-end, le temps est encore assez calme aujourd'hui avant d'être copieusement arrosé. Donc de nouveau en Méditerranée à partir de demain mardi, c'est un peu la calmée aujourd'hui. C'est vraiment un hiver exceptionnellement pluvieux et venteux sur le Languedoc-Roussillon. Il est tombé 3 fois plus de pluie que la normale et ce n'est pas terminé. Alors pour aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une petite accalmie, on a quand même une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest. Elle donnera de la pluie sur la Bretagne dès ce matin. La Bretagne de nouveau arrosée d'ailleurs un peu toute la journée. Et puis en Méditerranée, c'est vrai que la dépression Martha est en train de s'éloigner. Elle donnera encore de la pluie mais juste en Corse. Sur le reste, le pourtour méditerranéen, vous retrouvez le soleil surtout sur le quart sud-est. Et puis le temps est très gris ce matin avec pas mal de brouillards. Ces brouillards pourront se montrer tenaces encore entre le Val de Saône, je veux dire le Val de Saône, la Lorraine, les Ardennes, les Hauts-de-France. À Paris, on a pas mal de nuages bas. La Tour Eiffel, d'ailleurs, a perdu sa tête. Il y a de très belles éclaircies sur le quart sud-est ce matin et elles se profileront encore cet après-midi entre les Alpes et l'Alsace. On parle des températures qui ne voulut que très peu tout à l'heure.
Oui. Merci beaucoup quand même, Christine Peña, même si la Tour Eiffel a perdu sa tête, quand même, c'est dommage. Alors,